Ok, c'est parti. Ok, tout le monde entend bien, c'est bon? Ok, donc moi, je vais vous parler de Rust, le nouveau langage de programmation fait par Mozilla. Donc je vais vous raconter plusieurs choses dessus, pourquoi on fait ce nouveau langage, à quoi il sert, qu'est-ce que c'est les objectifs de ça. Donc d'abord, moi je me présente rapidement, je suis Léo Tessard. Je ne suis pas affilié officiellement à Mozilla, mais j'ai fait plusieurs contributions à Rust et pas mal de trucs autour de Rust en général. Et ça fait quelque chose comme un an et demi que je m'intéresse à ce langage. Alors, d'abord, un petit rappel de l'histoire de Rust. Donc ça a commencé en 2007. À la base, c'était un projet personnel d'un employé de Mozilla qui s'appelle Gregon Orr, qu'il avait créé pour répondre à ses besoins personnels. Mozilla a repris le projet en 2009, comme le projet officiel de Mozilla. En 2010, ils ont publié le code, ils l'ont mis sur GitHub. En 2011, ils ont abandonné le compilateur originel qui était écrit en OCaml pour le remplacer par un compilateur self-hosted, c'est-à-dire un compilateur Rust écrit en Rust. En 2012, ils ont commencé à faire des petites versions mineures stables, mais en fait personne ne les utilise, tout le monde utilise les netlist. Et la première version stable est prévue pour la fin de l'année si tout se passe bien. Ce sera probablement pas le cas. Mais... Ok, alors, pourquoi Mozilla s'embête à faire un nouveau langage? Donc, l'objectif de Rust, on peut le résumer à peu près en une phrase. C'est un langage moderne pour la programmation système. Ok, donc je vais expliquer un peu en détail qu'est-ce que j'entends par langage moderne et qu'est-ce que j'entends par programmation système. Donc la programmation système, il y a plein de définitions possibles. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait habituellement en C et en C++. Bon, mais ça, c'est pas une définition très précise parce que les gens utilisent C et C++ pour faire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Donc pour être plus précis, on pourrait dire que c'est le genre de choses que les gens devraient faire en C et C++. En fait, c'est des choses pour lesquelles on a vraiment besoin de contrôle. Donc, en général, c'est le genre d'usage où on a besoin de performance, mais ça suffit pas de dire juste des performances. Il y a des langages qui sont très, dont l'implémentation est extrêmement rapide, mais qui ne sont pas adaptés à faire de la programmation système. La programmation système, on a besoin d'avoir un contrôle manuel sur ce qui va se passer dans la machine. On a besoin d'optimiser vraiment à la main. Donc ça, ça veut dire contrôler la gestion de la mémoire. Quand est-ce qu'on va allouer, comment on va passer les paramètres, la façon dont on va s'interfacer avec le système d'exploitation, etc. Donc ça, c'est ce qu'on entend en général par programmation système. Et C et C++ sont des langages qui permettent ça. En dehors de ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc quelques exemples du cas d'utilisation de la programmation système. Donc tout ce qui est moteur par exemple, moteur web. Alors j'ai mis entre parenthèses Servo. Servo, c'est un projet de Mozilla qui était lancé un peu après Rust et qui est un moteur de rendu web un peu expérimental. Le but n'est pas de remplacer Gecko pour l'instant, dans 15 ans peut-être. Mais ça sert un peu de playground pour essayer Rust et ça envoie beaucoup de feedback aux développeurs de Rust. C'est une des raisons d'être de ce projet. Et c'est un moteur qui a été créé dès le début pour intégrer au maximum du parallélisme et de la sûreté, ce genre de choses. Bon, des moteurs 3D, des moteurs de recherche, des systèmes d'exploitation, de l'embarqué, du code serveur qui a besoin de responsivité rapide, de l'implémentation de langage, whatever. Ok. Donc, un langage moderne pour ce genre de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec C++? Alors, le premier point, c'est la sûreté mémoire. Ceux qui ont déjà fait du C++ se sont forcément déjà heurtés à des problèmes de sûreté mémoire, c'est-à-dire des erreurs de segmentation, ce genre de choses. Si on cherche en actualité, des failles comme Earthbleed, par exemple, c'est des failles qui auraient pu complètement être évitées si on avait utilisé un langage sans problème de sûreté mémoire, etc. L'expressivité, C++, c'est un langage qui date quand même un peu. Il y a dans les langages de haut niveau, on trouve plein de fonctionnalités qui aident à écrire des programmes de façon plus expressive, plus concise, en particulier dans les langages fonctionnels, et C++ intègre très peu ce genre de choses. Et enfin, la concurrence, c'est un langage qui a été pensé à une époque où les ordinateurs avaient un seul processeur et qui a du mal à évoluer actuellement. Donc, pour résumer, le but de Rust, c'est de donner au programmeur le plus de contrôle possible sur ce qui va se passer dans sa machine quand on écrit du code avec. tout en étant le plus sûr possible, garantir le plus possible l'absence d'erreur statiquement, c'est-à-dire à l'avance. On ne veut pas que les erreurs se produisent à l'exécution, on veut les détecter avant. Et on veut pouvoir écrire dans la mesure du possible les programmes concurrents. Et en même temps, rester toujours plus explosif que C++. Ce qui n'est pas bien difficile, mais quand même. Ok, donc là, j'ai préparé une liste de tous les trucs Rust a, et dont je ne vais pas trop parler. C'est surtout pour le troisième point, qui est l'explosivité. Moi, je vais surtout me concentrer sur les deux premiers points, donc le contrôle et la sûreté, comment Rust se débrouille pour arriver à concilier ces deux choses-là. Et tout ça, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas innovantes, qui existent dans d'autres langages depuis des années, que Rust intègre, on les a, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui viendront à l'atelier demain, on en parlera peut-être. Donc les types algébriques, les types sum, les tuples, donc ça c'est un truc qui existe dans les langages fonctionnels typés depuis 40 ans. Le pattern matching, ça va avec. Les lambda expressions, ce qu'on appelle aussi des fermetures lexicales. Du polymorphisme. Soit statique avec des generics, donc c'est pour donner une idée, ça correspond à ce qu'on fait avec les templates C++, mais de façon plus intégrée au système de type. Ou dynamique avec des trait objects. Donc là, on aura du dynamic dispatch, donc ça se rapproche plus d'un système d'interface, comme on fait en C++ avec de l'héritage, ou en Java, ou dans d'autres langages objets. Et enfin, la concurrence, j'en parlerai pas trop non plus, je l'évoquerai à un moment, mais de toute façon, la possibilité de faire de la concurrence de façon efficace et sûre en Rust dépend énormément du modèle humain dont je vais parler dans la suite. Ok. Donc, ça, c'est un diagramme que j'ai piqué à Nicolas Matsekis, qui est un des grands développeurs de Rust, qu'il utilise pour présenter l'opposition qu'il y a traditionnellement entre les langages système et les langages de haut niveau. Donc les langages système, généralement comme C++, fournissent énormément de contrôle et très peu de sûreté. On est complètement seul pour ce qui est de la sûreté d'exécution, il faut se débrouiller, ajouter des vérifications à la main tout le temps, etc. À l'opposé, il y a des langages comme Haskell, de très très haut niveau, avec énormément de sûreté d'exécution, un système de type extrêmement fort, qui garantit l'absence d'énormément d'erreurs, mais on perd énormément de contrôle. Pour l'anecdote, en Haskell, on perd même le contrôle sur l'ordre dans lequel les choses vont s'exécuter dans la machine. Bon, puis au milieu, on a des choses un peu intermédiaires. J'ai mis Java, YAML, j'aurais pu en mettre d'autres. Bon. Le but de Rust, c'est de concilier les deux. Au prix éventuellement d'un coût en complexité, mais bon. Alors, comment on va essayer de concilier le contrôle d'exécution, le contrôle sur la sûreté d'exécution avec le contrôle sur ce qui se passe dans la machine? Une des possibilités, ça aurait été le garbage collector, mais un garbage collector, ça ne garantit pas la destruction déterministe. On ne sait pas quand est-ce que la mémoire va être libérée. C'est pas ce qu'on veut en général quand on fait de la programmation système. Ça introduit un overhead assez important au runtime, il faut scanner la mémoire de temps en temps, et pour citer un développeur de Mozilla qui en parcourt la mémoire, on l'a perdu. Et puis, de toute façon, il y a besoin d'un runtime. Et quand on fait de la programmation système, quand on fait un système d'exploitation ou quand on programme sur un microcontrôleur, bah, on n'a pas de runtime et on n'en veut pas. Donc, pour faire simple, ça ne correspond pas. Alors, du coup, comment on va se débrouiller? Bon. Donc là, je rentre un peu dans le vif du sujet, le contrôle de la mémoire en Rust. Donc, qu'est-ce que j'entends exactement par contrôle sur la gestion de la mémoire? Déjà, il y a un point qui est souvent important, il y a deux catégories de langages de programmation. Il y a ceux dans lesquels la représentation des données est uniforme, et celles dans lesquelles elle est non uniforme. Uniforme, ça veut dire que tous les types de données font la même taille. Si c'est une valeur immédiate, par exemple un entier, il va occuper un mot mémoire. Si c'est une donnée plus grosse, on va devoir l'allouer et la gérer via un pointeur, qui fera donc la même taille. C'est ce qu'on appelle la représentation boxée. Si ça, je ne sais pas si ça vous parle. Au contraire, il y a des langages, comme C++, typiquement, où les structures de données ne sont pas boxées. Donc on a des données de différentes tailles. Le reste a fait ce choix aussi. Ça permet de choisir si on alloue des objets dans le tas, ou directement sur la stack. Quand on veut utiliser une structure de données complexe dans un langage de haut niveau, on est pratiquement toujours obligé de l'allouer dans le tas et de garder sur la stack qu'un pointeur, parce qu'il y a la contrainte que tous les objets n'est pas le cas de Rust. Dans Rust, comme en C++, on peut allouer des objets directement sur la stack. Et du coup, ça te permet de choisir est-ce qu'on passe par copie ou est-ce qu'on passe par référence. Autrement dit, quand on veut passer un objet à une autre fonction, notre objet est dans la stack, est-ce qu'on va passer un pointeur dessus ou est-ce qu'on va recopier le petit morceau de stack plus haut dans la stack. Donc tout ça sont des caractéristiques d'un langage qui doit permettre le contrôle sur la gestion de la mémoire. Ça a l'air simple, ça pose des problèmes. Qu'est-ce que j'entends par copier des objets? Copier des objets, il y a plusieurs façons de le faire. La façon naïve, c'est ce qu'on appelle la copie profonde. On prend un objet, on le recopie, et dès qu'on rencontre un pointeur, et ben on va aussi copier l'objet qui est pointé. Du coup, si notre objet contient des pointeurs, à la fin, on va obtenir deux objets complètement différents, complètement indépendants. Mais c'est super lent. L'autre façon de faire, c'est la copie superficielle. La copie superficielle, ça veut dire qu'on va juste copier bit à bit notre donnée, et si elle contient des pointeurs, ben on va se retrouver avec deux pointeurs sur la même chose. Par exemple, si on a une structure de données qui représente un tableau, dans le premier cas, dans le cas de la copie profonde, on va se retrouver avec deux tableaux indépendants, et si le tableau contient 1000 éléments, ben on aura copié 1000 éléments. Dans le deuxième cas, on va se retrouver avec deux instances du tableau et qui pointent sur la même zone mémoire, sur les mêmes 1000 éléments. Donc ça, c'est rapide, mais c'est pas tout à fait sûr. Je vais expliquer pourquoi. C'est un problème qui est hyper récurrent en C++, parce qu'en C++, quand on copie un objet, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on appelle un constructeur de copie, et par défaut, le constructeur de copie, il fait une copie superficielle. Donc il laisse des pointeurs dans tous les sens. Les développeurs C++, souvent, pour empêcher ça, ils définissent un constructeur de copie qui réalise une copie profonde, mais c'est pas forcément mieux, parce que du coup, les utilisateurs de votre API se retrouvent à faire des copies d'objets énormes sans le savoir, de façon complètement implicite. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on désactive tout simplement le constructeur de copie pour forcer l'utilisateur à utiliser une fonction explicite et pour le forcer à réfléchir à ce qu'il en faisait. Alors pourquoi c'est unsafe d'avoir plusieurs pointeurs au même endroit? Donc dans les langages qui donnent du contrôle sur la gestion de mémoire, on utilise un idiome qui s'appelle le RAI, Resource Acquisition is Initialization. C'est un paradigme qui dit qu'on sait quand est-ce qu'on alloue. Chaque fois qu'on utilise une nouvelle donnée, on alloue la mémoire nécessaire. En général, elle ne peut pas être non initialisée. Et dès qu'on en a plus besoin, on la libère immédiatement. En C++, quand vous allouez un objet quand vous créez un objet dans un bloc, quand vous sortez du bloc, l'objet est détruit. Ça s'appelle le destructeur, et en général, le rôle du destructeur est de libérer la mémoire allouée, associée. Du coup, le fait d'avoir de l'aliasing, c'est-à-dire plusieurs pointeurs vers le même endroit, représente un danger important dans ce contexte. Parce que quand on a de l'aliasing, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'un objet n'aura plus aucun pointeur qui pointe dessus, et donc quand est-ce qu'on pourra le libérer tranquillement. Donc, je vais revenir dessus, je vais montrer des exemples. Donc voilà un exemple en C++. Alors là, donc ce code est très simple. On commence par déclarer un vecteur. Donc un vecteur en C++, ce sont trois champs placés dans la stack. Le premier champ, c'est un pointeur vers une zone allouée sur le tas. Un vecteur, c'est systématiquement alloué sur le tas. Parce qu'il doit pouvoir grandir. Il n'a pas une taille fixée à l'avance. Il a un champ length, qui représente le nombre d'éléments présents dans un vecteur, et un champ capacity, qui représente la taille de la zone allouée. Bon. Et là, après avoir créé ce vecteur, je déclare une référence sur le premier élément. Donc ici, dans ma stack, j'ajoute un autre objet qui s'appelle élève, donc qui est un petit pointeur sur le premier élément du vecteur. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la fin du bloc? À la fin du bloc, le destructeur de l'objet vecteur s'exécute. Son rôle est de libérer la mémoire en orange ici. Et bon, pour le coup, la référence est hors scope aussi, mais si je l'avais gardée, je me serais retrouvé avec une référence qui pointe vers la mémoire libérée. Donc pour le coup, C++ empêche ça en interdisant une référence d'être initialisée après avoir été déclarée, mais ça suffit pas. Ça c'était juste pour montrer que chaque élément est une string, donc chaque élément est un vecteur de caractère, donc à chaque fois on retrouve la même structure avec les trois champs et un pointeur plus loin. Mais ça c'est pas très important. Alors, pour ne rien arranger au problème, dès qu'on a de la mutabilité entre présence de l'aliasing, ça devient pire. Donc par exemple, là, je prends ma petite référence sur le premier objet, et ensuite, j'essaie d'ajouter un élément au vecteur. C'est ce à quoi sert la méthode pushback. Et là, mon double, il se trouve que dans le cas présent, length est égal à capacity. C'est-à-dire que j'ai un objet dans mon vecteur, et la zone allouée, la taille de la zone de mémoire allouée, est aussi de 1. Donc j'ai pas la place de rajouter un deuxième élément. Donc qu'est-ce que fait le type vecteur en C++ quand on fait ça? Il réalloue une nouvelle zone de mémoire, il recopie l'élément dedans, il ajoute le nouvel élément, et il libère l'ancienne. Et il met à jour son propre pointeur data pour pointer vers la nouvelle zone. La petite référence qu'on avait prise sur le premier élément, bah du coup elle pointe vers une zone de mémoire qui vient d'être libérée. Tout ça sans enfreindre les règles de C++. Donc ça c'est un problème hyper courant qu'on rencontre notamment, c'est par exemple un problème hyper récurrent qui s'appelle l'invalidation d'itérateur en C++ est une instance de ce problème-là. C'est exactement la même chose. Et c'est le genre de choses qui se passent quand on a à la fois de la mutabilité et de l'aliasing, c'est-à-dire plusieurs pointeurs vers le même endroit. Et par mutabilité, j'entends modifier des données en place. Donc comment on a l'intention de fixer ça dans REST? Eh bien, en gros, notre but, c'est d'utiliser notre système de type pour lui faire comprendre un certain nombre de choses sur la gestion de la mémoire, dans le but d'empêcher statiquement d'avoir de l'aliasing quand on utilise des données mutables. Donc, d'empêcher statiquement, ça veut dire que ça doit déclencher une erreur à la compilation. Donc pour ça, REST introduit un concept fondamental sur la gestion de la mémoire qui s'appelle l'ownership. Ownership, ça veut dire propriété, ça veut dire que chaque variable possède les données qu'elle contient. Ça nous laisse deux types de données. Les données qu'on appelle copy, ou POD pour plain old data, sont des données basiques, brutes, comme les sentiers par exemple, qui peuvent être copiées sans danger parce qu'elles ne contiennent pas de pointeur. Donc là, voici un exemple de code REST. Il fait bien ce qu'on attend de lui. On commence par déclarer une variable x qui contient 1. On commence par utiliser une variable. Ensuite, on utilise une variable y qui contient x plus 1. Au moment de l'appel de l'opérateur plus, on va devoir copier la valeur de x. Aucune importance. Ce sont des entiers. Ça marche. Ça fait ce qu'on attend. Après, il y a toutes les données qui posent un problème parce qu'elles contiennent des pointeurs. Et pour cette raison, on ne veut pas les copier. Par exemple, box, c'est un type générique t qui représente un pointeur vers une donnée de type t allouée sur le tuple. Donc c'est ce qu'on obtient quand on fait l'équivalent d'un malloc. On obtient un box t et on ne veut pas le copier parce qu'il contient des pointeurs. D'une manière générale, on peut étendre cette définition à tout type qui possède un destructeur personnalisé, un destructeur défini par la personne qui a écrit le type. Par exemple, si on prend un type qui représenterait un fichier ouvert, il contient uniquement un entier, qui correspond à un file descriptor, sous Unix, donc pas de pointeur, mais pour autant, il faut que le destructeur soit exécuté une seule fois. Sinon, on va appeler fclose deux fois sur le même descripteur de fichier. Ça va pas. De la même façon, il ne faut pas qu'on puisse l'utiliser après que le destructeur ait été appelé. Sinon, on va faire un fread sur un fichier qui a déjà été fclose. Ça va pas non plus. Donc, d'une manière générale, c'est un problème qui s'applique à tous qui possèdent un destructeur personnalisé. Et dans le cas de box, le rôle du destructeur est simplement de libérer la mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces données qui sont donc non copiables? Alors, on leur applique ce qu'on appelle des moves sémantiques. C'est quelque chose qui est assez récent, ça existe dans C++. Alors, voilà ce qui se passe. Je commence par... Donc là, j'utilise le mot-clé box. Donc lui, le mot-clé box, il réalise une allocation. Donc il alloue une zone sur le tas avec suffisamment de place pour stocker un entier. Dans le tas, dans cette zone de mémoire que je viens d'allouer, je stocke l'entier 1. Okay. Ça me renvoie une valeur de type box t, en l'occurrence box int, ou uint plutôt. Et j'affecte cette valeur à x. Donc x contient une valeur de type box qui est un pointeur vers le tas. Ensuite, j'essaie de la copier dans Y. Puis, j'essaie d'afficher la valeur pointée par x, donc la petite étoile c'est comme en C, C++, hein, c'est pour déréférencer un pointeur, accéder à la valeur qui est derrière le pointeur, et j'essaie d'afficher. Là tout le monde s'attend à ce que ça affiche 1, bah non. En fait ça compile pas. Ça compile pas et ça dit error, use of moved value x. Parce qu'au moment où j'ai affecté x à y, j'ai fait une copie. Donc une copie superficielle, gratuite, qui ne prend pas de temps. Mais pour éviter d'avoir de l'aliasing, l'ancienne valeur, x, a été marquée comme inutilisable. Elle est toujours présente en mémoire. Bon, en réalité, le compilateur va réutiliser l'espace mémoire associé pour ne pas gâcher de place. Mais en tout cas, au niveau sémantique, au niveau du langage, l'identifiant associé, donc en l'occurrence x, n'est plus accessible. Donc, on peut toujours quand même réaliser des copies si on veut. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle clone, qui elle réalise une copie profonde, donc lente, mais il faut que l'utilisateur le demande explicitement en utilisant cette méthode. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a implémenté ce qui s'appelle l'ownership. Ça correspond, c'est vrai que j'ai pris une conférence qui a été donnée à la base devant des gens qui étaient assez familiers en théorie des langages de programmation, donc je ne sais pas si la notion de type affine ou type linéaire vous parle, mais c'est ce qui correspond en théorie des types à ce qu'on appelle ownership ou sémantique, en reste. Donc ça garantit la destruction safe et déterministe. Quand je sors d'un bloc, je peux appeler le destructeur de toute donnée, vu que je sais qu'il n'y a pas d'autres données qui partagent le même destructeur. Je sais qu'il n'y a pas d'autres données qui partagent le même pointeur qui essaierait soit d'y accéder, soit de le libérer à nouveau. Je sais qu'il n'y a pas d'autres fichiers avec le même file descriptor qui essaierait de lire dessus ou de le fermer. Donc je peux appeler le destructeur. Pas de problème. Donc en fait, j'ai réussi à empêcher mon problème initial qui était d'empêcher d'avoir à la fois de l'aliasing et de la mutabilité en empêchant tout simplement l'aliasing. Ok. Super. Donc, ouais, une petite note au passage. C'est super utile quand on fait de la concurrence parce que ça permet d'éviter une certaine classe d'erreurs de concurrence, un certain type d'accès concurrent. Car quand je passe une donnée à un autre thread, et que j'en ai plus besoin pendant ce temps-là, et ben je peux faire une copie très rapide, j'ai juste à faire une copie bit par bit, une copie superficielle, et il n'y aura pas de problème d'accès concurrent à cette donnée, vu que le thread à plan, statiquement, est garanti de ne plus y accéder. Et oui, ça existe dans C++11, mais c'est pas terrible. Déjà, il faut appeler stdmove un peu partout, c'est hyper verbeux, et en plus, le compilateur ne vérifie pas qu'une donnée qui a été déplacée sera plus utilisée après, donc ça sert pas à grand chose, on peut se planter quand même. Donc on a éliminé le problème d'accéder à une donnée qui a déjà été libérée, ou de libérer deux fois une donnée, mais on peut accéder à une donnée qui a été déplacée vers autre part. C++, c'est tellement bien qu'ils ont spécifié leur fonction move, ça laisse la donnée dans un état non spécifié mais valide. Donc ça peut laisser place à à plein de comportements non déterminés. Ok, bon, mais c'est quand même pas terrible d'avoir empêché l'aliasing, parce que l'aliasing, ça sert. Déjà, faire des moves à chaque fois que vous voulez passer une donnée à une fonction, si vous devez faire un move, et ensuite refaire un move pour la valeur de retour, bah, ça serait pas très marrant. Puis en plus, j'ai dit que passer par copie, même par copie superficielle, ça peut être lent des fois. Si vous avez alloué une structure qui fait 1 kilooctet sur votre stack et que vous devez la passer par même copie, bah, vous allez être emmerdé. Il y a un idiome qui est assez récurrent en programmation, c'est donner une donnée, passer une donnée à une fonction, pendant un temps donné, juste en lecture. Donc j'ai une donnée, elle m'appartient, je veux la passer à une fonction pour que cette fonction fasse des calculs dessus, mais cette fonction a juste besoin de lire cette donnée pendant un certain temps. Ensuite, elle me les rend. Elle n'a pas besoin d'en prendre la propriété. C'est moi qui garde la propriété de la donnée, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui décide quand est-ce que cette donnée va être libérée. Donc ça, c'est ce qu'on fait en REST avec un... Pourquoi il y a l'arrière-plan des slides qui revient ? Je ne sais pas. Avec un mécanisme qu'on appelle le borrowing. Donc borrow, en anglais, ça veut dire emprunter. Donc on a des petites références. Donc ici, je déclare une variable qui s'appelle x. Au passage, je suis obligé de la noter comme mutable parce que j'ai envie de la modifier et qu'en Rust, contrairement à C++, c'est la mutabilité qui est optionnelle et pas l'inverse. Donc on déclare quand une donnée est mutable plutôt que de déclarer quand une donnée est constante. Donc je déclare une variable mutable que j'appelle 1, enfin que j'appelle x qui vaut 1, je prends une référence dessus avec et, ça, la syntaxe est en résidu de la syntaxe C++, et ensuite j'essaie de la modifier. Et ça ne marche pas. Parce qu'il y a une référence qui existe vers cette donnée. Et tant que cette référence existe, je ne peux plus modifier la donnée originale, ni via la référence, ni via le propriétaire. Mais les références ne sont pas uniques pour autant, je peux en faire plusieurs. Ça, ça marche. Je prends une première référence que j'appelle Y, une deuxième que j'appelle Z. Ensuite, je fais une copie de Z, donc j'obtiens une troisième référence qui s'appelle A. Ensuite, je vérifie que les deux valeurs pointées sont bien égales. Ça marche. Donc en fait, oui, le scope dans lequel une référence est valide est fixé statiquement. Donc là, je commence par déclarer ma variable. Ensuite, dans un bloc à l'intérieur, je prends une référence. À l'intérieur de ce bloc, la mutation est interdite parce que la référence est valide. Dès que je sors du bloc, la référence sort du scope, donc la donnée est rendue au propriétaire originel, et je peux donc la modifier à nouveau. Donc, en fait, j'ai implémenté de façon safe ce qu'on appelle l'appel par référence. Je bloque temporairement l'ownership pour pouvoir faire de l'aliasing. Donc, j'ai empêché la mutabilité et l'aliasing de se produire en même temps, en empêchant temporairement la mutabilité. Tout à l'heure, j'avais empêché l'aliasing, maintenant je permets temporairement, pour avoir de l'aliasing, de bloquer la mutabilité. Bon, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais si j'ai envie de pouvoir passer des données par référence et d'avoir aussi de la mutabilité? Autrement dit, un autre idiome assez récurrent, toujours pareil, je passe les données à une fonction de façon temporaire, elle n'en prend pas l'ownership, c'est toujours moi qui garde le contrôle de la destruction de ces données, mais j'ai quand même envie qu'elle puisse y écrire pendant la durée pendant laquelle je lui prête. Bon, et ben on a un truc pour ça. On a un borrow mutable qui fonctionne exactement comme le borrow immutable, sauf qu'il peut y en avoir qu'un seul à la fois, que je ne peux pas créer d'autres borrow, même immutables, pendant qu'il y en a un mutable qui existe, et qu'on peut muter la donnée qu'à travers la référence. Et donc, pour cette raison, et t, qui représente une référence immutable vers un type t, et mut t ne sont pas le même type. Ça, c'est une référence qui permet de modifier le t pour t à travers, celle-là non. Bon, je peux utiliser celle-là, là où celle-là est attendue, je peux abandonner mes droits de mutation temporairement, mais pas l'inverse. Donc voilà un petit exemple. Donc je commence par déclarer ma donnée, en gros, toujours pareil. Ici, je prends une référence mutable vers x. Donc, dans ce bloc interne, aucune autre référence n'est autorisée. Parce qu'il y en a déjà une qui autorise la mutation. Donc, je ne peux en faire aucune autre, mutable ou pas. Ensuite, je modifie la donnée à travers la référence. Je sors du bloc. Donc, la référence mutable s'en va. Le propriétaire récupère sa donnée. Il peut de nouveau faire ce qu'il veut avec. Donc, en résumé, le modèle de Marc de Bresse, c'est trois paradigme de gestion de la mémoire, l'ownership, le propriétaire, donc destruction déterministe, le propriétaire, enfin, toutes données ont un propriétaire, il peut faire ce qu'il veut avec, et quand il n'en a plus besoin, elles sont détruites. Le borrow partagé, je donne temporairement un accès à cette donnée à quelqu'un, voire à plusieurs personnes, mais pendant ce temps-là, elles ne peuvent pas être modifiées. Et pour finir, le borrow mutable, je donne temporairement un accès en écriture sur la donnée, et pendant ce temps-là, personne ne peut la supprimer, personne ne peut y accéder à part l'écriture, à part la personne qui a pris le borrow mutable. Donc là, à chaque fois, on a un exemple de fonction qui prennent une donnée soit par valeur, donc par valeur, ça veut dire que si c'est une donnée de type copie ou pod, elle sera copiée. Si c'est une donnée de type non-copie, elle va être quand même copiée, mais le propriétaire originel n'y aura plus accès, donc elle était transférée. Dans le deuxième, on l'apprend par référence, et dans le troisième, on l'apprend par référence mutable. Ok. Mais ça, c'est un problème qui paraît un peu abstrait, parce que tout ça, ce sont des règles qui paraissent quand même extrêmement contraignantes. Et c'est des règles qui sont justifiées que quand on va se retrouver avec plusieurs pointeurs vers une même donnée. Or, plusieurs pointeurs vers une même donnée, dans la vie de tous les jours, ça se fait pas très souvent. Souvent, il y a un pointeur temporaire qui existe quand je passe un pointeur vers une donnée, une fonction, mais uniquement temporaire. Quand est-ce que je vais avoir vraiment deux pointeurs qui vont exister en même temps? C'est quand je vais vouloir, par exemple, envoyer un pointeur vers l'intérieur d'une donnée, comme je faisais tout à l'heure avec le vecteur. J'avais un vecteur, et à côté de ça, j'avais un pointeur vers le premier élément du vecteur. Le problème, c'est qu'un emprunt, donc une référence, ne peut pas survivre à la personne qui possède la donnée. Donc ça, c'est en gros ce que j'avais fait tout à l'heure. Je déclare ma variable i, je prends un pointeur dessus, une référence. Dans ce scope-là, je ne peux pas modifier la donnée originelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, c'est bon, je peux, parce que l'emprunt s'est terminé. Bon, si on enlève le premier i égale 2, ce code est valide. Parce que la durée de vie du pointeur est bien comprise dans la durée de vie de l'objet emprunté. Si en revanche, j'essaie de faire ça, donc je déclare une référence que je n'initialise pas tout de suite. Je déclare un objet, et ensuite j'essaie d'initialiser la référence avec un pointeur sur cet objet. Ça, ça ne va pas. Parce que sinon, ça veut dire qu'une fois sorti du scope, la référence sera toujours valide, mais le pointera sur un objet qui ne l'est plus. Donc ça, c'est interdit. La durée de vie de la référence est plus grande que la durée de vie de l'objet sur lequel on pointe. Donc revenons à notre problème d'essayer de retourner une référence vers l'intérieur d'un objet. Donc ici, j'ai une structure qui contient juste un champ de type entier, et j'essaie de faire une fonction qui prend en paramètre une référence sur cette structure et qui renvoie une référence sur le A qui est dedans. Ben ça, ça ne marche pas. Non, je vais aller trop vite. Ça ne marche pas parce que dans ce contexte, comme on est dans une fonction, on ne connaît pas le scope dans lequel f est valide. Et donc, on ne peut pas garantir que la référence qu'on crée va être bien, ne va jamais survivre à l'objet sur lequel elle pointe, vu qu'on ne sait pas pendant combien de temps l'objet sur lequel elle pointe va être valide. Donc, on ne peut pas garantir que l'emprunt qu'on est en train de créer, une fois revenu à l'endroit d'où on a appelé la fonction, il sera toujours valide. Pourtant, ce qu'on veut faire, en fait, pour généraliser le problème, c'est faire un emprunt qui survit l'endroit où il est créé, sans pour autant survivre l'endroit dans lequel l'objet est valide. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle des paramètres de lifetime sur Rust. C'est probablement la fonctionnalité la plus intéressante de Rust. Pour ceux qui viendront à l'atelier demain, on s'attendra beaucoup dessus. En gros, on va demander au programmeur d'annoter explicitement les durées de vie des références. Donc ici, la syntaxe des chevrons, on retrouve la syntaxe C++ pour les templates, sauf que ici, plutôt qu'avoir une fonction qui est paramétrée par un type, elle est paramétrée par une durée de vie. Donc ici, on dit, étant donné un scope qu'on appelle A, je prends une référence vers un objet qui est valide pendant tout ce scope A, et je renvoie une référence qui sera valide pendant au plus ce scope A. Peut-être moins, mais pas plus. Et ça, c'est bon. Maintenant, la référence que je renvoie a la même durée de vie que l'entrée. Le compilateur peut tracer cette information. Et donc, à l'endroit où j'appelle ma fonction, il va savoir que la valeur de retour sera valide au mieux dans le même scope que la valeur que j'ai passée en entrée à la fonction. Et si j'essaie de la faire survivre, ça sera une erreur statique. Donc voilà, par exemple, ici, je crée une instance de ma structure dans le bloc, j'utilise la fonction que j'ai écrite plus haut, qui renvoie une référence vers le data qui est dans la structure. Ici, le compilateur, même si ça ne se voit pas, il sait que y a au mieux la durée de vie de x. Et là, j'essaye de la stocker dans un champ qui a un scope plus large. Ça ne marche pas, c'est une erreur statique. Ça dit x ne vit pas assez longtemps pour faire ce qu'on essaie de faire. Bon, ça, c'est un exemple un peu plus compliqué. Je ne sais pas si je vais... Quelle heure il est, là ? 43. Je ne sais pas si je vais trop mettre dessus. De toute façon, on en fera demain, ça. En gros, c'est un exemple pour montrer comment on implémente un itérateur. C'est pour montrer qu'on peut avoir des structures qui sont paramétrées par un scope, par une durée de vie, et qui contiennent une référence ayant ce scope-là. Et donc là, c'est exactement pareil. À chaque instance de cette structure, le compilateur associera une durée de vie et vérifiera que l'objet ne l'excède pas. Mais je ne vais pas trop commenter ce code, on verra ça demain. Ok. Je vais... Hein ? Quoi ? Je vais revenir un peu vite fait sur une autre fonctionnalité importante qui est les Dynamic Elasticsearch Types, ou DST. Ça, c'est un truc qui est assez récent, c'est en train d'arriver, c'est pas complètement fini. Donc, le problème, c'est que comme on a une représentation non uniforme, toutes les données n'ont pas le même type, tous les types de données n'ont pas la même taille, et donc à la compilation, on doit connaître la taille des données. Le problème, c'est qu'il y a certaines données qui n'ont pas une taille fixée. Par exemple, une instance d'un trait donné, donc un trait c'est une interface en fait, si je prends une interface et que je prends n'importe quelle instance de cette interface, je ne peux pas savoir a priori quelle taille il fait, parce que ça peut être n'importe quel type qui implémente cette interface. Ou alors un array alloué sur le tas, je ne sais pas quelle taille il fait non plus. Donc pour ça, on doit utiliser une indirection. Donc juste écrire le nom d'une interface ou entre crochets un type, ce ne sont pas des types. Par contre, une référence dessus, c'en est. Ça, en C++, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'interface en C++, mais on ne peut pas passer par valeur une classe abstraite, par exemple, et on ne peut pas non plus passer juste par valeur un tableau. On est obligé de passer ça par contraire. Et ça, c'est un problème pour faire de la programmation générique. Parce que des fois, on aimerait bien pouvoir paramétrer les types par un type qui a une taille ou pas. Donc avec les types dynamiquement taillés, je ne sais pas comment traduire, on a deux catégories de types, des types qui n'ont pas de taille. Donc maintenant, ce sont bien des types, ils n'ont toujours pas de taille, ils ne sont toujours pas utilisables par valeur, on doit toujours les utiliser à travers un pointeur, mais au moins, on peut les utiliser comme paramètres de type dans, quand on fait de la programmation générique. Donc ici, par exemple, je dis que box est un type qui est paramétré par n'importe quel type, que c'est une taille ou pas. Les closures, je vais passer dessus parce que c'est pas très intéressant. On verra ça à l'atelier. Ok, donc en conclusion, Rust, c'est un langage qui propose des trucs qui sont assez nouveaux. L'ownership et les moves sémantiques, c'est pas le premier langage à les utiliser, mais c'est peut-être le premier langage à les intégrer à ce point dans son système de type, pour permettre de faire des vérifications statiques dessus. Les lifetimes, donc les pouvoir paramétrer des fonctions et des structures de données par des scopes, ça, je ne crois pas qu'il y ait aucun autre langage qui fasse ça, à part peut-être des langages de recherche un peu ésotériques. Donc, le but de toutes ces fonctionnalités, c'est de faire de la programmation système sûre. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Rust, parce qu'ils pensent que c'est le nouveau langage qui va concilier l'expressivité, l'abstraction des langages de haut niveau avec les performances de C++. Non, ça c'est juste pas vrai. Toutes ces fonctionnalités, ça vient au prix d'un gros coût en expressivité et en réflexion quand on écrit du code. Et c'était vraiment pour un usage particulier, celui de faire de la programmation système sûre. Ça devrait être le cas de n'importe quelle programmation système en fait. Mais si c'est pour écrire des programmes de haut niveau qui utilisent du garbage collector dans tous les sens, c'est possible en Rust. Il y a un garbage collector dans les standards. Mais on va juste s'emmerder pour rien par rapport à l'utilisation d'un langage de haut niveau pour un gain minime. Mais pour faire de la programmation système, c'est déjà pas mal. Enfin, pour aller plus loin, bon, le problème c'est que ici on est à Toulouse, donc je ne sais pas trop si ça va marcher, mais on a une communauté Rust francophone, et on fait des meet-up à Paris tous les mois. Donc, ouais. Si vous avez de l'argent à perdre dans le TGV, vous pouvez venir. On a une page meetup.com. Et sinon, on a un chat IRC. Et là, normalement, il n'y a pas besoin de prendre le TGV pour y aller. C'est etienne-rust-fr sur le serveur IRC de Mozilla. Voilà, j'ai terminé avec le slide. Si vous avez des questions. Ouais. Vous voulez que je prenne que je file le micro pour les questions ou ça ira? Non, ça ira.
Tu as parlé de création de paramétrage de type par scope.
Ouais.
Est-ce que c'est possible, mais c'est compliqué à faire en C++? Tu crées un type scope et tu le passes en.
Tu peux créer un type scope, sauf que le compilateur ne va absolument pas faire l'association entre ce type et un scope réel dans ton programme. Oui, d'accord, mais tu vas quand même devoir faire ça de façon explicite. Alors que là, le compilateur va s'assurer que un type paramétré par un scope ne dépasse jamais le scope en question. Et pour le compilateur, ce paramètre scope, c'est effectivement un bloc du programme. Voilà. Absolument aucun prérequis sur Rust. Avoir déjà fait du C ou du C++ dans la vie, ça peut aider, mais c'est pas fondamentalement nécessaire non plus. Non, on part du début. On va surtout faire de la gestion de la mémoire, de l'ownership, du borrowing, des lifetimes et tout ça, et voir un peu le reste de la syntaxe au fur et à mesure.
Pourquoi avoir créé un nouveau langage? Il n'existe pas dans d'autres langages tous ces systèmes? Parce que dans la semaine, j'avais entendu parler de d'autres langages qui pouvaient se prouver, enfin qu'on pouvait prouver la fiabilité, quoi, en fait. Et donc, j'imagine qu'il y a des mécanismes similaires, quoi.
Alors, si tu penses à de la preuve formelle, ça existe. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile à faire, surtout quand on se retrouve avec plein de pointeurs dans tous les sens et tout ça. Et le but des langages avec des systèmes de type très fort, c'est aussi de faciliter le travail des gens qui vont essayer de prouver la correctitude du programme ensuite. La correction, pardon. Voilà. Et puis aussi, dans les langues. Alors, la preuve formelle, en général, on l'utilise encore que quand on est dans des cas vraiment très critiques. Avec vraiment des très grosses contraintes de fiabilité. Pour des cas un peu moins critiques, en général, c'est beaucoup de travail. Et l'avantage des langages qui garantissent ça via le système de type, même si on ne peut pas garantir autant de choses qu'en faisant de la preuve, bah, au moins c'est automatique. La vérification est automatique. Ouais, alors Servo, c'est le plus gros truc. Non, pardon. Servo, c'est le deuxième plus gros truc. Le premier étant le compilateur Rust lui-même. Cargo, c'est pas énorme. C'est le gestionnaire de package de Rust. C'est assez avancé, mais en termes de code base, c'est pas énorme. Et. Oui, exact. J'ai vu passer ça aussi au moment où une startup qui a parfaitement commencé à faire des trucs avec du Rust. Mais je crois qu'ils utilisent une vieille version. Je crois qu'ils utilisent une écrise. Mais sinon, bah, moi j'ai quand même fait des trucs un peu conséquents avec. Je ne sais pas si ça parle à des gens, Lex, le générateur d'analyseurs lexicaux. Bah, j'ai fait la même chose avec Rust, sauf qu'il s'utilise non pas via un langage dédié comme Lex, mais via le système d'extension de syntaxe de Rust. Voilà, et j'ai fait aussi une petite machine virtuelle pour exécuter un sous-ensemble du langage Scheme avec. Sinon, ouais. Il y a diverses choses. Cerveau, ça doit être vraiment le projet le plus gros et le plus abouti avec Rust. Mais
Cerveau, c'est quoi en fait?
Cerveau, c'est un moteur de rendu web qui a été fait pour servir de playground, de terrain d'expérimentation pour Rust et aussi pour de nouvelles techniques de moteur de rendu et qui est fait dès le début pour intégrer au maximum de la concurrence et du parallélisme et de la safety aussi. Et ça passe assez depuis pas très longtemps. Donc on n'a pu avoir que 10 ans de retard sur le reste du web.
Et donc c'est bien un langage compilé.
Ouais, totalement. Bah, je vais pas trop parler de langage compilé, parce que bon, le langage, c'est le langage, peu importe comment il est implémenté. Mais actuellement, l'implémentation de référence, c'est un compilateur qui utilise LLVM pour générer du code natif. Bah non, ça, pour n'importe quelle plateforme qui est gérée par LLVM, donc vraiment énormément de plateformes. Ah oui. Il y a eu d'ailleurs, à un moment, une distribution de Rust pour Android, mais je crois qu'ils ont arrêté parce que c'était pas trop maintenu, mais ça a tourné sur des processeurs, hein. Et ça doit tourner encore. Ouais. Parce que effectivement, l'embarqué, c'est un des gros champs d'applications possibles. Autre question ? Ouais.
Sur l'interfaçage entre Rust et du C ou même de l'assembleur, comme tu parles de marqué, c'est compliqué ou...
Non, c'est pas compliqué du tout. Ouais. Alors déjà, pour ce qui est de l'assembleur, on a une petite macro ASM pour inclure de l'assembleur dans le code Rust. Et puis, alors, un truc que j'ai oublié de mentionner, en Rust, on a des blocs qui s'appellent unsafe, qui servent à désactiver temporairement une certaine partie de vérification pour construire des abstractions safe. C'est-à-dire que des fois, vous avez besoin de dire au compilateur, j'en sais plus que toi, fais-moi confiance. Sauf que, plutôt que de faire ça dans tout votre programme, en faisant ça juste dans une fonction, tu peux garantir, toi, des invariants que le compilateur ne peut pas voir, parce que tu sais que ton code va être utilisé uniquement à travers cette abstraction, et utiliser le système de type pour garantir ça. Voilà. Et une des choses qu'on peut faire dans ces blocs-là, c'est appeler des fonctions externes implémentées en C, par exemple. Voilà. Mais aussi, le but de ces blocs-là, c'est d'essayer de permettre d'implémenter le plus de choses possible en Rust et de devoir passer par le C que quand on a vraiment besoin d'une bibliothèque ou quelque chose. Voilà. Autre question ?
Est-ce que ça a comme ambition, par exemple, de remplacer un langage comme ADA ?
C'est un peu les mêmes objectifs. Oui, ben, oui et non. C'est un peu les mêmes objectifs, oui. Après, bon, personnellement, je ne connais pas super bien ADA, mais c'est vrai que c'est un langage qui avait été aussi fait pour faire de la programmation système safe à l'époque, mais je ne sais pas si c'est encore très utilisé. Après, je ne sais pas, par exemple, pour ce qui est de l'utilisation de Rust, dans des cas vraiment très critiques, où des gens utilisent du ADA, par exemple, pour tout ce qui est avionique, ce genre de choses-là, je ne sais pas trop où on est actuellement. Actuellement, ce serait du suicide de l'utiliser parce que c'est encore en développement et c'est plein de bugs. Mais à terme, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui essaient de faire des choses très critiques avec Rust dans ce domaine-là. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas trop en tout cas.
Actuellement, c'est C qui est utilisé, mais avec plein de vérificateurs derrière.
Oui, voilà. Il faut dire que, oui, et en Rust, c'est beaucoup plus simple de faire ce genre de vérification. Vu qu'elles se font au fur et à mesure du développement, qui est
excusez-moi, je suis arrivé en cours. Vous avez dit qui a initié le projet, en fait Qui a initié le projet
Alors, à la base, c'est un projet d'un employé de Mozilla qui s'appelle Gridon.org. C'est son projet personnel. Et ça l'est resté pendant 2 ans jusqu'à ce que Mozilla le reprenne officiellement. Voilà. Bon. Ben, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Et pour ceux qui ont l'intention de venir à l'atelier demain,